Bonjour à tous, aujourd'hui on s'aventure dans le maquis de la finance verte.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quel nouveau chantier de réflexion pour 2020 ? C'est la question que pose aujourd'hui France Culture dans le cadre de la Nuit des idées. En économie, c'est du côté de la finance verte que les idées neuves se bousculent. Les marchés financiers investissent de plus en plus dans la transition écologique. En 5 ans, les obligations vertes ont bondi de 300%. Un succès qui témoigne peut-être d'un basculement, même si cette bourse écologique ne représente encore qu'une goutte d'eau. Alors, les marchés financiers peuvent-ils verdir l'économie ? C'est notre question du jour. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler des splendeurs et des misères de la finance verte, nous accueillons aujourd'hui Étienne Espagne, économiste de l'environnement à l'Agence française de développement, Fanny Henriet, économiste à l'École d'économie de Paris, et Sébastien Soleil, expert de la transition énergétique chez BNP Paribas. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Étienne Espagne, Fanny Henriet et Sébastien Soleil, bonjour.
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 More and more clients are now thinking about how should they invest.
De plus en plus de nos clients réfléchissent à la manière dont ils devraient investir. Et vous savez, cela fait maintenant 44 ans que je suis sur les marchés financiers. Il est très clair que nous, les marchés financiers, nous mettons le risque en avant. Nous n'attendons pas que le risque soit face à nous. Il y a eu des moments où c'est arrivé et où nous avons vécu une crise financière majeure. Mais dans la plupart des cas, nous gérons les risques. Et grâce à ce processus, nous atteignons la plupart des risques. Donc, de plus en plus de clients se concentrent sur cette question. Et il est devenu très clair pour moi que la croyance dans la science est plus forte. Et par conséquent, que nous ne devrions pas éviter de parler du changement climatique, parce que le changement climatique est désormais un risque d'investissement.
On entendait Larry Fink, le patron de BlackRock, le numéro un mondial de la gestion. C'était lors du Forum économique mondial de Davos. Alors on l'a vu toute cette semaine dans notre émission, le rôle des marchés financiers et notamment de la bourse, c'est de gérer le risque. Or la finance semble avoir pris conscience que l'un des principaux risques aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique, Fanny Henriet.
Oui, alors quand on pense au risque qui est lié au dérèglement climatique, il y a plusieurs risques. Il y a le premier risque qui est le risque directement lié au réchauffement climatique et qui est la dévalorisation des actifs qui vont souffrir si effectivement le changement climatique a lieu. Et puis il y a un deuxième risque qui qu'on appelle le risque de transition, c'est-à-dire ces actifs qui devraient perdre leur valeur en quelque sorte si on lutte cette fois contre le changement climatique et qu'on arrive effectivement à maintenir une trajectoire en dessous de 2 degrés.
Et l'un des signaux de ce risque de transition dont vous parlez, c'est l'entrée en bourse en décembre du géant pétrolier saoudien Aramco, qui n'a pas réussi à attirer autant d'investisseurs étrangers que ce qu'il espérait. C'est le signe que les investissements dans les énergies fossiles n'ont plus la cote, Étienne Espagne ?
Alors oui, on sent une petite tendance effectivement dans ce sens-là, mais je voudrais peut-être revenir sur le discours du patron de BlackRock. On voit qu'il s'agit aujourd'hui pour les acteurs financiers absolument de pouvoir avoir un discours sur le changement climatique, mais on est encore dans l'ordre du discours. Parallèlement à ça, l'approche qui est prise, donc qui est dans la continuité du métier de ces acteurs, c'est l'approche par le risque, peut poser certains problèmes. Quand on traite de la question du changement climatique.
Lesquels, par exemple ?
Deux types de problèmes. D'abord, pour l'instant, on n'est pas très sûr, pas très stable dans les méthodes d'évaluation du risque climatique, que ce soit le risque de transition ou le risque physique, comme le mentionnait Fanny. Donc là, il y a vraiment des progrès à faire. Mais ensuite, ce dont il s'agit quand on parle de risque que fait courir le changement climatique au système financier, c'est bien de protéger le système financier vis-à-vis de ces risques climatiques. Or, parfois, il y a des risques bien humains aussi liés au changement climatique. Et ça, l'approche par le risque que va apporter le système financier ne s'y intéresse pas par définition, par construction.
Ce que vous regrettez, c'est une approche qui serait principalement économique et qui exclut d'autres facteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Soleil, vous qui travaillez pour BNP Paribas ?
Donc oui, dans le monde financier, on a quand même beaucoup une approche par les risques, pas uniquement parce que enfin, dans les banques, on est quand même, il y a quand même des employés dans les banques, il y a quand même des dirigeants et qui, nous sommes tous individuellement interpellés. Il y a eu un gros, à mon avis, un gros changement dans les mentalités avec l'accord de Paris et la COP21 à Paris. Et donc, il y a eu une prise de conscience dans la société civile de façon générale, mais dans les banques également, qu'il y avait un risque systémique. Mais là, quand je dis risque systémique, c'est pas seulement systémique au sens financier. C'est risque sur les sociétés humaines, risque lié aux migrations, lié aux maladies, enfin, un risque pour l'ensemble de la société. Et donc, en tant qu'employé dans les banques, moi, comme l'ensemble des employés de BNP Paribas, on a quand même envie, on veut pas être complètement schizophrène. Donc, on a quand même envie d'œuvrer pour un monde qui sera vivable pour nos enfants. Mmh. Et voilà, on a de plus en plus conscience que si on travaille pas à pousser l'ensemble du système financier vers plus de transition énergétique, on aura un monde qui sera pas vivable, et ça forcément on ne le souhaite pas.
Alors on va voir tous les problèmes que pose effectivement ce terme même de finances vertes, d'obligations vertes, mais d'abord pour finir sur le bilan, ce qu'on constate aujourd'hui, Fanny Henriès, c'est que ces obligations vertes, elles connaissent un succès croissant, donc ce sont des obligations qui servent à financer des projets en faveur de l'environnement.
Oui, alors effectivement, donc il y a eu un boom dans les obligations vertes. Pour autant, on observe quand même toujours que les investissements privés actuels sont pas du tout compatibles aujourd'hui avec une transition énergétique qui permette de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement, et même un peu plus. Donc, par exemple, les investissements dans l'offre de charbon ont augmenté de 2% en 2018. Donc on observe dans le même temps une augmentation de l'importance de ces obligations vertes, mais aussi au niveau mondial, toujours des augmentations, toujours des investissements bruns.
Alors avant de voir qu'effectivement c'est peut-être insuffisant, il faut peut-être tout de même se féliciter de cette augmentation importante des investissements dans des projets verts, Étienne Espagne.
Oui, absolument. C'est, là aussi, ça fait partie d'un indéniable mouvement positif depuis au moins la COP21. Alors pour relativiser un petit peu quand même sur le montant des obligations vertes, j'ai le chiffre là un petit peu sous les yeux, ça reste 0,4% de l'encours mondial d'obligations totales. Donc il y a une marge de progrès, mais le pourcentage de croissance est très important d'une année sur l'autre, donc ça croît très rapidement.
Et quel type de projet les obligations vertes servent à financer, par exemple, Sébastien Soleil ?
Alors, oui, deux choses. 0,4, pour moi, c'est assez daté. Moi, j'avais plutôt de l'ordre
2018,
de...
2018, j'ai un chiffre de 2018.
C'est peut-être un peu vieux, déjà. Ça dépend comment calculer, plutôt 2%. Mais en tout cas, c'est en croissance et c'est le plus important. Et je pense que sur les obligations vertes, moi, le premier effet tangible que je vois et que je trouve très important, c'est que ça fait se dialoguer la sphère financière et la sphère du développement durable. Jusqu'à maintenant, les directeurs financiers, faut être clair, le développement durable, ils en avaient à peu près rien à faire. Là, introduire les obligations vertes, alors c'est pas suffisant, mais c'est le début, introduire les obligations vertes fait prendre conscience aux directeurs financiers que l'environnement, c'est pas que les petites fleurs et les voilà, c'est un vrai problème financier, un vrai problème, une vraie question pour l'entreprise.
Je vous laisse poursuivre.
Et pour revenir à votre question, alors des obligations vertes, ça finance quelque chose qu'on considère comme vert. Alors, il y a des grilles, des frameworks, des principes là-dessus. On en est qu'au début de la définition, donc les définitions sont assez floues, mais les projets les plus typiques, c'est tout ce qui est énergie renouvelable, par exemple, ou énergie dans le traitement des eaux, etc. Donc, il y a un certain nombre de projets. On travaille conjointement, tout le monde, à essayer de définir une liste de projets verts un peu plus précise.
Mais c'est extrêmement compliqué, parce que qu'est-ce qu'on considère comme vert, par exemple? Est-ce qu'on considère que financer le nucléaire, c'est un projet vert? Personne n'est d'accord sur cette question, Fanny Henriès.
Ah non, c'est sûr que pour l'investissement dans le nucléaire, je crois que notamment la France et l'Allemagne ne sont pas tout à fait d'accord sur est-ce que l'investissement dans le nucléaire doit être considéré comme un projet vert. C'est sûr qu'il y a un problème de définition. Une manière d'approcher le problème, c'est de regarder est-ce que j'investirais dans un projet donné s'il y avait un prix du carbone, par exemple. Et donc, si il y avait un prix du carbone, j'investirais dans ce projet-là. Ça veut dire que il peut être considéré comme vert.
Alors, il faut que vous nous expliquiez un peu plus ça.
Donc, ça veut dire qu'en gros, prenons l'exemple d'une centrale à charbon. S'il y avait un prix à la tonne de carbone, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émettait une tonne de carbone, on devait payer un certain prix, alors ça serait vraisemblablement pas rentable de produire de l'électricité avec du charbon. Et donc dans ce cas-là, le projet, on voit bien, il serait pas rentable avec un prix du carbone. En revanche, un projet renouvelable serait rentable avec un prix du carbone suffisant.
Étienne Espagne, sur la façon de considérer qu'un projet est vert ou non, il faudrait peut-être diverses nuances de vert, si je puis dire, c'est-à-dire vraiment peut-être trois types de vert qui montreraient des projets plus ou moins bas carbone.
Oui, alors effectivement, il y a un problème, on va dire, de nomenclature. Mais là-dessus, il y a quand même une expérience assez ancienne, ne serait-ce que par les crédits de développement propre qu'avait développé l'ONU après le protocole de Kyoto. Mais il y a un autre peut-être problème avec l'obligation verte, c'est la question de l'additionnalité. C'est-à-dire que quel investissement finance une obligation verte qui n'aurait pas été financée s'il n'y avait pas eu l'obligation verte? Et là, c'est vrai qu'en l'absence, et je rejoins Fanny, en l'absence d'une valorisation de la tonne de carbone émise, on est un peu limité pour dire qu'il y a vraiment une additionnalité là derrière. Et donc, voilà, en tout cas, tout ce mouvement vers l'obligation verte, ça participe, disons, d'une vision du secteur financier comme juste marginalement un peu impacté par le changement climatique. Donc, avec l'idée qu'en rétablissant la transparence de l'information sur le contenu carbone des actifs financiers et en créant des nouveaux marchés qui seraient ces obligations vertes, eh bien, l'investisseur serait éclairé et informé et pourrait, parce qu'il a en tête les transitions bas carbone à venir, pourrait prendre ses décisions de manière éclairée. Donc c'est une vision du marché financier qui est intrinsèquement stable. On n'a pas forcément observé ça les dernières décennies.
Cette question du carbone, elle est absolument essentielle, hein, et on va y revenir dans une deuxième partie de l'émission, savoir dans quelle mesure un marché du carbone avec un prix du carbone suffisant pourrait permettre de valoriser davantage ces obligations vertes. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne sur les origines de ces obligations. Ce qu'il faut rappeler peut-être, Fanny Henriens, c'est qu'au départ, c'est une institution internationale, la Banque mondiale, qui crée la première obligation verte en 2008.
Alors oui, c'est vrai que la Banque mondiale était un des pionniers pour créer ces obligations. L'idée, c'était justement de trouver de nouveaux instruments, en quelque sorte, pour lutter contre le changement climatique, parce qu'on voyait bien qu'on n'arrivait pas à mettre en œuvre des instruments plus classiques, justement de tarification du carbone, pour permettre de réorienter l'investissement vers ces investissements.
Mais c'est intéressant de voir que c'est d'abord une institution internationale qui lance le projet. Ensuite, elle est suivie par des États, et notamment la France, qui a été, je crois, pionnière sur le sujet, et seulement ensuite par des acteurs privés, Étienne Espagne.
Oui, effectivement. D'ailleurs, l'Agence française de développement aussi se finance par des obligations vertes pour une partie. Et la France est troisième, effectivement, dans les émetteurs d'obligations vertes. Mais on voit que, effectivement, si ça naît de la Banque mondiale, puis des banques de développement, c'est aussi une forme d'autre modèle de finance derrière qui est soutenu. Hein. Ces banques de développement ont des mandats politiques qui expressément disent il faut aligner votre activité, votre action sur les objectifs de l'accord de Paris. Donc c'est leur mandat, elles doivent respecter ce mandat-là, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est comme une régulation, si vous voulez, mais ce qui n'est pas forcément le cas de l'ensemble du système financier.
Mais dans l'histoire des obligations, le moment de rupture peut-être, c'est le moment où effectivement les banques et les grandes entreprises commencent à émettre des obligations vertes, et notamment aussi c'est l'arrivée des entreprises américaines sur ce marché qui a peut-être été un moment déterminant, Sébastien Soleil.
Oui, ça s'est fait progressivement. Maintenant, les trois premiers marchés, c'est les États-Unis, la Chine et la France. Ça a vraiment démarré en 2014. La France a émis sa première dette souveraine quelques années après. Donc c'est un marché en pleine croissance. Et là, c'est un marché en structuration. C'est vraiment que le début de l'histoire. Donc il y a deux combats à mener. Enfin, deux combats, c'est le terme un peu fort. C'est continuer à clarifier le marché pour savoir ce qui est vert, ce qui est pas vert, comment on mesure l'additionnalité, etc. Donc là, l'Union européenne notamment travaille sur un projet de taxonomie verte.
Il y a un label modèle européen effectivement qui est à l'étude.
Oui, voilà, mais qui c'est un processus long parce qu'on l'a vu pour le nucléaire, etc. Il y a beaucoup de
dissensions,
beaucoup de débats. Donc il faut avoir un cadre, parce que si on n'a pas de cadre, ça part dans tous les sens, n'importe qui dit n'importe quoi, et ça fait perdre en crédibilité à l'ensemble du système. Donc le travail de tous ces la Banque mondiale, etc. permet aussi de donner un cadre à ça qui permet à tous les acteurs de s'inscrire dans le même cadre et d'avancer dans la même direction.
Alors effectivement, ces obligations vertes sont de plus en plus nombreuses, mais c'est largement insuffisant. C'est ce que dit Mark Carney, qui a été nommé envoyé spécial de l'ONU pour le climat, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il est en charge de la préparation de la COP26, qui se tiendra à la fin de l'année à Glasgow. On l'écoute.
Companies were not in a consistent way saying...
Les entreprises ne disaient pas de façon cohérente quelle était leur empreinte carbone, comment elle évoluerait et ce qu'elles comptaient faire à ce sujet. Comment elles géraient la transition? Nous sommes censés passer à une économie zéro net d'ici 2050. Donc ma question pour chaque entreprise, chaque institution financière est donc la suivante. Quel est votre plan? Désormais, 120 milliards de dollars de banques et de gestionnaires d'actifs veulent cette transparence. Et plus de 100 des plus grandes entreprises du monde commencent à la mettre en œuvre. Nous avons donc fait de grands progrès, mais je vais vous le dire, en ce qui concerne le changement climatique, les choses ne vont pas assez vite.
Voilà Mark Carney lors d'une interview réalisée à la BBC le mois dernier. On a donc des progrès réels dans la transparence des entreprises, Étienne Espagne, mais des progrès qui sont encore très insuffisants.
Oui, alors déjà, il faut tirer notre chapeau à Mark Carney, qui est un des premiers banquiers centraux à avoir évoqué le sujet du changement climatique juste avant la COP21 en 2015. Il a vraiment mis le sujet sur la table, et c'est à partir de là qu'il y a eu une vraie impulsion avec différentes, on peut ne pas être d'accord sur toutes les solutions qui sont proposées, mais au moins différentes initiatives du secteur financier.
Il est le premier à avoir parlé de risque systémique.
Il parle de risque systémique dans son premier discours, ce qui implique d'autres types d'actions que la transparence simplement sur le contenu carbone ou les nouveaux marchés d'obligations vertes, et notamment ça implique les banques centrales par exemple dans leur rôle de surveillance de la stabilité financière et donc aussi des formes de régulation macro-prudentielle verte. Donc tous ces sujets qui sont en débat aujourd'hui au sein des banques centrales et qui avancent, jamais assez vite bien sûr par rapport aux enjeux climatiques, mais qui avancent quand même assez fortement en très peu de temps.
Parce qu'il y a cette question d'une obligation verte qui peut porter sur un projet précis, mais une obligation verte peut aussi porter sur la performance globale du groupe. Et là encore, c'est extrêmement difficile à évaluer, Fanny Henriet. Performance en faveur de l'environnement ou non?
Oui, la question c'est de savoir... qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces obligations vertes, et est-ce que quand on achète une obligation verte, ça contribue effectivement à réduire les émissions de CO2? C'est pour ça que l'initiative de mettre des outils harmonisés, lisibles, c'est pour ça que la transparence est le premier chantier afin de pouvoir réellement mesurer l'empreinte carbone des entreprises et des investissements.
Mais le problème que l'on constate, c'est que dès que les critères deviennent plus exigeants, les sommes en jeu s'effondrent. Sébastien Soleil, là, il y a un problème.
Je ne sais pas si les sommes en jeu s'effondrent. Enfin, parce que...
Comme si les investissements qui demandaient le moins de contraintes en termes justement environnementaux étaient celles que tout le monde s'arrachait, mais en réalité, dès qu'il s'agit de faire des efforts plus importants, les gens sont plus frileux, les investisseurs sont plus frileux.
Plus frileux? Non, les investisseurs sont très demandeurs. On trouve pas forcément les projets en face, mais il y a une forte demande des investisseurs pour avoir des projets verts, des entreprises vertes, etc. Après, il faut en effet... il faut plus de transparence. On essaye en fait d'avoir actuellement, et c'est très bien, d'avoir autant de transparence dans les données extra-financières que dans les données financières. Sauf que les données financières, ça fait des décennies qu'on construit un cadre de comptabilité, etc. Pour les données extra-financières, c'est beaucoup plus récent. Et donc, il faut à la fois savoir ce qui est vert et ce qui est pas vert, et être capable de comptabiliser les efforts vers la transition énergétique et vers la trajectoire de l'accord de Paris. Mmh. Donc ça, il y a des méthodologies qui sont en cours de développement, mais c'était des méthodologies complexes, que ça touche au cœur même des activités de l'entreprise, et on a besoin de ces méthodologies pour faire des choix éclairés et orienter les flux d'investissement dans les bonnes directions.
BNP Paribas a beaucoup communiqué sur le fait que la banque investissait beaucoup dans des obligations vertes, mais on peut se demander aussi quel sens cela peut avoir de communiquer sur ces choses-là si en même temps on continue à investir dans les énergies fossiles, comme c'est le cas de BNP Paribas à hauteur de 70%, je crois, de ses investissements énergétiques.
Alors, j'ai plus le chef précis en tête, mais il faut à la fois, il faut vraiment, c'est vraiment les deux choses. Hein. Ce qu'on cherche, c'est on s'engage à aligner l'ensemble de nos activités sur une trajectoire de degré. En termes de financement de l'énergie, ça veut dire décarboner progressivement notre mix, et donc ça veut dire d'une part investir de plus en plus dans des activités vertes et de moins en moins dans des activités brunes.
Mais 2040 pour la sortie du charbon, pour la fin des investissements dans le charbon, c'est ce qu'a annoncé BNP. Est-ce que ça c'est pas trop tard ?
Alors. Il y a beaucoup de confusion sur la date 2040. 2040, c'est le 00. Donc, on inclut là-dedans tout ce qu'on investit dans des compagnies énergétiques diversifiées. Même si elles ont 80% de renouvelables et un peu de charbon, on le prend dans cette comptabilisation. Et donc, BNP Paribas était une banque qui finance l'économie, qui finance l'industrie. Et pour l'instant, on peut le regretter, et je le regrette, il y a encore beaucoup de fossiles, beaucoup de charbon dans l'industrie. Mais notre rôle, c'est d'accompagner la transition, de pas dire au revoir du jour au lendemain, c'est vraiment d'accompagner la transition en ligne avec la trajectoire de l'accord de Paris. Dans les rapports du GIEC et les scénarios à 1,5 degré, il y a encore du charbon en 2040. Donc voilà, c'est pas. Le but, c'est de descendre progressivement le plus vite possible pour être en ligne avec les objectifs.
Mais certains pourraient vous reprocher justement de ne pas aller assez vite et de beaucoup communiquer sur des efforts qui seraient en réalité insuffisants aux yeux de certains.
Alors insuffisant, c'est le verre à moitié plein et à moitié vide. On va pas assez vite. Le monde collectivement va pas assez vite.
Il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas, autour de la pratique du greenwashing, le fait que beaucoup de banques, d'investisseurs présenteraient leurs avancées, mais que ce serait avant tout une question de marketing et peu de progrès réel, Fanny Henriet.
Oui, c'est pour ça qu'on a vraiment, encore une fois, besoin de mesures fiables pour arriver à pouvoir dire est-ce que quand on investit dans tel actif, est-ce que ça contribue effectivement à réduire les émissions de CO2 par rapport à ce qui se serait fait sinon ? C'est la fameuse question de l'additionnalité. Et c'est pour ça que pour l'instant, comme c'est un marché qui est pas encore très mature, il y a un peu de tout dans les indices verts, les obligations vertes, etc.
À l'heure actuelle,
il y a un grand besoin de réglementation de tout ça.
Un grand besoin de réglementation et aussi d'évaluation a posteriori. Aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer l'impact réel de ces obligations vertes sur la lutte contre le dérèglement climatique et en particulier sur les émissions de CO2.
Oui, exactement. C'est le problème, encore une fois, de l'additionnalité se pose très souvent. Est-ce que l'investissement, est-ce qu'il n'aurait pas eu lieu sinon ? Est-ce que la tonne de carbone aurait été émise si on n'avait pas investi dans cette obligation ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Étienne Espagne ?
Oui, je voulais peut-être revenir juste sur ce qui avait été dit auparavant. Vous citiez les chiffres pour BNP Paribas. Bon, c'est extrait d'un rapport d'Oxfam France, je pense, essentiellement. Et moi, j'avais regardé la réponse qu'avait faite, le droit de réponse qu'avait fait BNP Paribas à ce rapport. Et ça me semblait intéressant comme phrase. C'est que l'économie carbonée dans laquelle nous vivons aujourd'hui est le résultat depuis plus de 200 ans de choix de société voulus par les États, développés par les entreprises, financés par les banques et souhaités par les citoyens. Bon, ça on peut un peu discuter. Aujourd'hui, l'urgence climatique impose à tous les acteurs de la société effectuer la transition vers notre modèle et vite. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dedans ? C'est ces 200 ans. Voilà, on est sur un. Moi, j'ai appelé ça dans le Capitalocène. Enfin, il y a d'autres qui mentionnent ce nom. On est sur une nouvelle époque géologique qui s'appelle le Capitalocène. Et donc, bien sûr, les banques qui ont financé les différentes phases de ce Capitalocène sont complètement intégrées à cette époque géologique. Et là, il s'agit d'un coup d'en sortir. Alors, avec une partie de nouveaux acteurs qui vont émerger, mais aussi comment faire avec les acteurs existants et toute leur expertise aussi. Qu'ils ont par ailleurs.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est normal que ça prenne du temps.
Alors voilà, non, là on peut dire qu'il y a une claire urgence, et je pense que là-dessus, Mon sentiment, c'est que si seuls les acteurs financiers s'auto-saisissent en quelque sorte de la question du changement climatique, ça sera complètement insuffisant. Mmh. Il faut un clair signal public, un signal public qui peut passer par un prix, mais qui peut aussi passer par les Green Deal européens ou Green New Deal américains. Donc ça, ce signal public permettra ensuite à des acteurs privés de s'insérer et d'opérer dans des activités qui sont rentables à l'intérieur de ce cadre nouveau. Mais sans signal public, on ne s'en sort pas.
Fanny Aurier.
Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Étienne Espagne, le meilleur moyen de réorienter l'investissement des activités sales vers des activités propres, c'est de rendre rentables les activités propres et de rendre non rentables celles qui polluent. Donc ça veut dire que quand une entreprise a une activité qui contribue beaucoup au réchauffement climatique, il faudrait qu'elle soit pénalisée d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des prix ou par des régulations. Et que agir uniquement sur l'investissement, donc sur le côté finance verte, c'est vraisemblablement pas suffisant.
Un dernier mot tout de même sur la finance verte. Ce que l'on constate, c'est que les investissements dans les énergies fossiles commencent déjà à être impactés, touchés par le réchauffement climatique, à tel point que certains économistes, comme Jérémy Rifkin, parlent d'une bulle carbone qui pourrait éclater dans la prochaine décennie.
On commence alors à avoir des millions et des milliards de dollars en actifs échoués sur les énergies carbonées. Le marché a parlé. Lorsque l'éolien, le solaire deviendront encore moins chers, nous allons avoir des droits d'exploitation qui ont été achetés mais jamais utilisés. Les installations ne sortiront plus le pétrole de la mer ou du sol. Les pipelines vont être laissés à l'abandon. Les usines devront fermer, les raffineries devront fermer, les stations-service vont être abandonnées à leur tour, etc. C'est quelque chose d'intéressant. La banque Citigroup estime à 100 milliards de dollars le montant des actifs échoués. Ça représente la plus grosse bulle économique de l'histoire.
Étienne Espagne, que vous inspirent ces propos? On devrait assister à des pertes gigantesques, à des faillites d'entreprises qui auraient trop investi dans les énergies fossiles?
Bon, je ne suis pas un devin comme Jérémy Rifkin, hein, donc peut-être.
Qui est très
pas.
Précis, il parle de 2028.
En revanche, là où je peux être d'accord, c'est sur la catégorisation du changement climatique comme un risque systémique. Maintenant, ça ne veut pas dire que la matérialisation de ce risque va se faire brutalement, comme on a pu avoir une crise systémique en 2008. A priori, ça va être une crise d'une différente nature. Hein, donc, après, voilà, s'il y a un changement politique brutal aux États-Unis avec d'un coup une re-régulation, bon, bah, des banques comme JP Morgan peuvent avoir des petits problèmes ou une décision de la Chine de vraiment sortir du charbon, voilà, des choses comme ça qui sont toujours imprévisible.
En même temps, pour le moment, la bascule s'opère de façon assez lente. On a du mal à imaginer une rupture, un éclatement d'une bulle, Fanny Aurier.
Oui, sauf si on pense qu'on va vraiment respecter les engagements de l'accord de Paris et rester en dessous de 2 degrés. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on estime qu'il y a un tiers des réserves de pétrole, la moitié des réserves de gaz et environ 80% des réserves de charbon qui devraient rester sous terre. Donc ça veut dire quand même que toutes les infrastructures qui sont liées à ces et toute l'activité économique qui est liée à ces ressources fossiles devrait perdre sa valeur si effectivement on se met d'accord pour pas les utiliser. Après, est-ce que ça va faire un effondrement généralisé? Je suis pas certaine qu'on puisse dire ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a certains actifs qui devraient quand même perdre de leur valeur et que ça risque d'avoir un effet sur l'ensemble de l'économie.
Vous voulez réagir à cela, Sébastien Soleil?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je souhaite que ça soit pas brutal et c'est pour ça qu'on travaille dans ce sens-là, à ce que les entreprises s'adaptent, parce que personne n'a intérêt à un effondrement brutal. Et c'est contrairement à ce que vous disiez, enfin, je pense que ça peut, on voit quand même les premiers signes et ça peut être assez rapide. En 2015, c'était les électriciens européens qui, face à l'arrivée massive d'électricité renouvelable sur le réseau, ont connu de très grosses dépréciations d'actifs, plusieurs dizaines de milliards de dépréciations d'actifs en une seule année. Et là, ça arrive dans le monde du pétrole et du gaz. Repsol est probablement la première entreprise à le faire dans le pétrole et le gaz et vient de déclarer que 4,8 milliards d'euros de dépréciation d'actifs parce qu'elle estime que ses réserves, en fait, suite aux politiques de lutte contre le changement climatique, ont perdent sans doute un peu de valeur. Donc ça arrive, ça arrive.
Et en effet, il ne faut peut-être pas compter que sur les acteurs financiers pour cela. Il faut que l'État, les pouvoirs publics s'impliquent dans cette question, évidemment, d'une façon ou d'une autre. On va en parler dans un instant. Excuse me, Mister, de Ben Harper. Nous poursuivons notre cheminement dans le labyrinthe de la finance verte en compagnie d'Étienne Espagne, Fanny Henry et Sébastien Soleil. Alors, comment rendre les obligations dites vertes plus rentables que les obligations standards? Je vous propose d'écouter le mathématicien Ivar Ekland.
L'obligation verte est un produit qui est inadapté. Je redis que financer la transition énergétique, c'est absolument nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui se fera tout seul. Et il y a des moyens de le faire. Il y a des prêts directs à certaines entreprises ou à certains projets que vous jugez verts. Il y a aussi des bonifications. Par exemple, isoler les bâtiments publics, ça c'est faisable par exemple avec des prêts bonifiés. Des modes d'action, il y en a. Mais l'obligation n'est pas adaptée. On cherche à faire aux banques et aux investisseurs un métier pour lequel elles ne sont pas faites. Elles sont là pour apporter du rendement à leurs clients. C'est à l'État de faciliter la transition énergétique et de mettre en place les instruments qui permettent de le faire. Si par exemple il y avait une taxe carbone, à ce moment-là, les investissements bruns en quelque sorte coûteraient plus cher et donc les rendements seraient nécessairement moins chers et donc ça équilibrerait le marché des obligations.
Ce que dit ici Ivar Ekland, c'est que le marché des obligations vertes ne suffit pas, il faut rendre le carbone plus cher et ça passe alors soit par une taxe carbone, soit par un marché du carbone qui soit efficace, Étienne Espagne.
Oui, en tout cas, ça passe par une forme ou une autre de valorisation du carbone. Alors, en Europe, on est assez fiers de notre marché EU ETS.
Qui existe depuis 2005 déjà.
Qui existe depuis 2005. L'Europe a été pionnière là-dessus. Alors, jusqu'à très récemment, bon, le prix a réaugmenté. On est à, je ne sais plus, 20-25 euros la tonne de carbone aujourd'hui. Mais dans à peu près les 10 dernières années, il était plutôt autour de 5-6 euros la tonne. Donc, c'était très très faible. Et ça n'orientait absolument pas les investissements des entreprises vers des projets bas carbone.
Alors d'abord, il faut peut-être expliquer le fonctionnement de ce marché du carbone européen, Fanny Henrier. Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors le principe de base, c'est qu'il y a une quantité totale de tonnes de CO2 qui peuvent être émises. Et à chaque fois, donc, il y a un marché qui correspond à l'achat de ces tonnes de CO2. Et donc à chaque fois qu'une entreprise qui est régulée, donc qui fait partie du système de l'EUETS, émet
du marché du carbone,
voilà, du marché du carbone européen, émet une tonne de CO2, il doit acheter sur ce marché-là la tonne de CO2 correspondant, donc un quota qui lui permet d'émettre. Donc si les prix sont bas, donc la quantité est fixée, la quantité totale d'émissions de CO2 est fixée.
Si les prix sont bas, c'est pas très grave pour lui de dépasser ce fameux seuil.
Mais si les prix sont bas, ça veut dire simplement que la quantité totale qu'on a décidé de mettre sur le marché initialement est trop importante. Donc, même si les prix sont bas, il fonctionne ce marché au sens où il parvient à permettre de limiter les émissions de CO2 des installations régulées à la quantité totale qu'on a définie, qu'on a prédéfinie avant la mise en place du marché.
Alors, effectivement, il faut expliquer que c'est il y a plus de 14 000 centrales et installations de 31 pays en Europe qui sont concernées, et effectivement, le prix trop bas, Étienne Espagne, qui était le cas pendant des années, pose des problèmes, puisque ça n'était pas incitatif, en fait, pour les entreprises.
Voilà, c'était pas incitatif, et comme le dit Fanny, effectivement, il y avait trop de quotas sur le marché, et là, il semble que l'augmentation du prix soit due au fait qu'on a une certaine crédibilité sur la décennie à venir, et le fait qu'on va retirer progressivement un certain nombre de quotas du marché pour pouvoir le rendre plus strict, plus dur.
Concrètement, il y a une réserve, réserve de marché, qui permet d'ôter un nombre de quotas, ce qui tire les prix à la hausse.
Voilà, elle va être mise en place. Je vais juste faire un petit pas de côté pour prendre la vue un peu globale de ces marchés carbone dans le monde. Donc il y a à peu près 20% des émissions mondiales de carbone qui sont couvertes par un système de prix ou de marché. Et dans ces 20%, il n'y en a que 5%, donc 5% de ces 20%, qui sont à des niveaux de prix qu'on considère comme compatible avec les objectifs de l'accord de Paris.
C'est-à-dire donc, suffisamment incitatif.
Voilà l'état à peu près de la tarification du carbone dans le monde.
Alors, je voudrais vous faire entendre Célia Gauthier pour bien comprendre pourquoi ce marché du carbone a été longtemps jugé inefficace. Célia Gauthier de l'ONG Action Climat, qui prend l'exemple d'ArcelorMittal.
Alors là, on a la quantité de quotas que chaque entreprise a reçue en 2014. Donc on voit par exemple que ArcelorMittal à Dunkerque avait reçu plus de 9 millions de quotas. Alors qu'ils sont sortis de la cheminée de l'usine plus de 7 millions de tonnes de CO2. Donc on voit bien qu'il y a une différence de 1,5 million de quotas qui ont été versés en trop. En fait, non seulement toutes leurs émissions sont couvertes par des permis à polluer gratuits qu'elles n'ont pas besoin d'acheter, mais en plus, elles en reçoivent des quotas supplémentaires qui leur permettent de gagner de l'argent en les revendant sur le marché carbone. Tout ça de manière complètement factice, puisque c'est lié au fait que les pouvoirs publics ont surestimé les besoins en permis à polluer de ces entreprises, voire en fait ont été trop généreux pour les protéger.
Ça, c'est la situation qui a prévalu au moins jusqu'à 2018. Il y a eu une forme de rupture en 2018, Étienne Espagne ou Fanny Henrier.
Oui, donc avant, les quotas étaient attribués gratuitement aux différentes installations. Et ensuite, ces installations, ces entreprises pouvaient acheter des quotas supplémentaires sur le marché ou vendre des quotas si elles en avaient trop. Donc finalement, si le prix du quota avait été quand même assez élevé, même une installation qui avait trop de quotas, elle aurait quand même gagné à émettre un peu moins et puis à revendre ses quotas sur le marché. Donc ça aurait quand même eu un effet incitatif. Depuis 2018, en gros, on a changé de système. On n'alloue plus les quotas gratuitement aux entreprises, mais on les met aux enchères.
Et alors, qu'est-ce que ça change? Expliquez-nous.
Ce que ça change, c'est qu'on a... Donc, en revendant ces quotas, les entreprises telles que ArcelorMittal avaient finalement des profits tombés du ciel, en quelque sorte. Parce que on leur a attribué des quotas et ensuite elles pouvaient les revendre. Donc, ça leur permettait d'augmenter les profits. Et donc, ça change. Elles n'ont plus ces profits tombés du ciel, ces windfall profits.
Et c'est aussi ce qui explique que ce marché, ce prix du carbone a augmenté, Sébastien Soleil.
Oui, enfin, suite aux dernières, aux récentes décisions de la prise de conscience que les prix étaient pas assez incitatifs et donc aux décisions de l'Union européenne dans le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que, alors, on est d'accord pour dire qu'en effet, pendant tout le début du marché, les prix des quotas étaient pas assez incitatifs. Le point positif, alors, on peut dire que ça arrive un peu tard, mais ce système était quand même nouveau pour les entreprises. Ça a demandé à la fois pour les entreprises pour les administrations beaucoup d'apprentissage et que là on arrive dans une phase où les prix vont être plus incitatifs et où on a testé le marché, les entreprises savent le faire fonctionner et donc il y a eu toute cette période d'apprentissage qui a été efficace et bénéfique. On peut dire qu'elle a duré trop longtemps, mais au moins on arrive dans une phase plus contraignante avec des pouvoirs publics, des administrations et des entreprises qui sont prêtes à affronter ces prix plus incitatifs.
L'un des effets positifs de cette hausse du prix du carbone, c'est que les centrales à charbon sont moins rentables aujourd'hui, mais ce n'est pas encore suffisant. Étienne Espagne, il faudrait que ce prix augmente encore ?
Oui, absolument. Si on se réfère, par exemple, un rapport de la Commission sur les prix du carbone de 2017 qui recommandait des prix au niveau mondial entre 40 et 80 dollars la tonne de carbone en 2020.
Donc nous, là, on est entre 20 et 25 euros
Europe,
à peu près.
Et on est en dessous. Donc on est en Europe, on n'est pas trop loin encore, mais d'autant que parfois il y a d'autres prix de carbone qui s'ajoutent dans certains pays. La France, il y a une taxe carbone en plus pour d'autres secteurs, etc. Donc, mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc c'est clairement insuffisant. Et on revient à l'autre idée directrice, c'est-à-dire que il y a d'un côté cette idée de pénaliser la réduction d'émissions, mais il y a de l'autre côté l'idée de bon, mais quelle transformation sectorielle on veut pour une économie neutre en carbone, quoi. Et de là, de ce côté-là, c'est plutôt de l'ordre de la politique, je dirais, industrielle, du signal public à nouveau, qu'il y a vraiment un travail à faire et un retard là-dessus aussi au niveau européen.
Mais l'idée aussi d'utiliser l'argent reçu par l'augmentation récente du prix des quotas qui accroît les recettes publiques, cet argent, il peut être utilisé pour financer la transition énergétique et donc pour développer effectivement de nouveaux secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Fanny Henriet ?
Étienne Espagne, vous vouliez réagir. Effectivement, dans le Green Deal qui a été présenté par la Commission européenne, il y a une toute petite partie de l'argent qui a été avancé. Et je crois, dites si je me trompe, c'est quelque chose comme 25 milliards sur les 10 prochaines années qui sera issu effectivement de la vente de ces quotas sur le marché EU-ETS par rapport au trillion d'euros que la Commission européenne a promis pour financer ce Green Deal. Donc c'est très faible par rapport aux besoins d'investissement additionnels qui sont évalués.
Fanny Henriet.
Oui, pour revenir sur le prix du carbone, donc Étienne Espagne faisait allusion à un rapport. Donc il y a un rapport aussi de la Commission Kinney plus récent en France, qui met le prix du carbone qui permettrait d'arriver à une trajectoire compatible avec l'accord de Paris, plutôt aux alentours de 100 dollars la tonne aujourd'hui. Donc c'est encore bien plus élevé que les prix qu'on observe sur le marché des quotas européens. Et pour rebondir sur aussi ce que disait Étienne Espagne sur le besoin d'investissement public, de politique industrielle en quelque sorte, justement, il faudrait en fait que dans les décisions d'investissement public, on prenne cette valeur du carbone pour voir si un investissement public effectivement devrait être fait ou pas, à une valeur sociale positive ou pas.
Mais ce prix du carbone est effectivement encore assez faible pour beaucoup d'observateurs. Et en plus, il n'y a pas de marché carbone mondial. On n'a que des marchés carbone régionaux, Sébastien Soleil. Comment on explique qu'on n'y arrive pas ?
Oui, alors sur les marchés réglementaires, il y a des marchés carbone régionaux parce que voilà, c'est décidé par des pouvoirs publics. Déjà en Europe, on a la chance d'avoir un marché qui fonctionne sur 31 pays grâce à l'Union européenne, donc c'est déjà énorme.
Le protocole de Kyoto en 97, il avait posé les bases d'un marché carbone international.
Tout à fait, qui n'a pas été suffisamment relié. Alors, ce qui se relance maintenant, et moi je trouve ça très positif, c'est des marchés carbone volontaires, donc des entreprises ou des particuliers ou des États même qui veulent compenser leurs émissions résiduelles en achetant des crédits carbone volontaires. Et donc l'idée, c'est de mettre en relation des porteurs de projets un peu partout dans le monde qui ont des projets qui permettent de séquestrer du carbone, notamment dans les sols et dans les plantes, en faisant pousser des forêts, en faisant de l'agroécologie, etc.
Eurostar, par exemple, qui propose de planter un arbre à chaque fois que ses trains traversent la Manche.
par exemple. Alors pour l'instant, c'est des marchés qui sont là aussi, les coûts du carbone sur ces marchés sont assez faibles, mais il y a un effet de sensibilisation qui est à mon avis fort et puissant. Et donc là, on crée un nouveau marché qui permet de mettre une valeur sur quelque chose qui, pour l'instant, n'en avait pas. Et donc ça permet de faire évoluer les choses doucement pour l'instant. Encore une fois, on ne va pas forcément assez vite, mais ça permet de faire évoluer les choses dans la bonne direction.
C'est intéressant que vous abordiez cette question du marché de la compensation, parce que ça pose un certain nombre de questions. Le fait que les États, par exemple, puissent échanger des quotas carbone, il y a une crainte qui existe, c'est que les pays développés soient tentés de réaliser une partie de leurs objectifs de réduction des émissions à l'étranger en investissant dans la compensation des émissions carbone et en retardant leur propre transition écologique.
Oui, alors si je peux compléter, parce qu'en effet, la compensation, on arrive aussi dans les mêmes problèmes de manque de définition. Donc la compensation, pour l'instant, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière. Si on met tout et n'importe quoi, ça va tuer le marché, parce que ça sera, enfin, on aura vite des problèmes, on fera n'importe quoi, et ça risque de tuer le marché. Donc il y a quand même quelques prérequis à la compensation. Déjà, la compensation ne doit pas être quelque chose qui permette de justifier des émissions. Il faut la première action, c'est justifier les émissions. Et l'essentiel des efforts doit porter sur la réduction des émissions. La compensation, ça vient en complément parce qu'on sait que pour atteindre la neutralité carbone, on ne pourra jamais réduire les émissions à zéro. Enfin, il y aura toujours des activités résiduelles, il y aura toujours un peu encore des émissions. Et donc, ces émissions résiduelles, il faut les compenser. Mais voilà, la première chose, c'est réduire les émissions. Ça, c'est la première limite très importante qu'il faut avoir en tête. Deuxième limite, il y a plein de projets de compensation carbone. Il y en a qui ont vraiment un bon effet, qui ont de l'additionnalité, qui permettent aux populations locales qui en profitent un vrai gain en niveau de vie. Et il y en a qui ne sont pas faits dans les bonnes conditions. Donc on ne peut pas faire n'importe quel projet de compensation.
Mais il y a une inquiétude tout de même qui demeure, que l'on parle des États ou que l'on parle des entreprises, Étienne Espagne.
Oui, sur la compensation, je crois qu'il y a une étude de 2019 de chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle qui est sortie pour faire un peu un bilan de la compensation pour la France, il me semble, et qui évalue les vrais projets de compensation à quelque chose comme moins de 5% de l'ensemble. Donc voilà pour la compensation aujourd'hui. Donc il y a clairement effectivement une structuration une vraie réflexion à avoir sur ce qu'est une véritable compensation.
Parce qu'en plus, c'est un marché volontaire, c'est ce que disait Sébastien Soleil, c'est pas un marché régulier comme le marché du carbone.
Voilà, et en aucun cas il faut se féliciter par exemple d'une baisse d'émissions en Europe qui serait uniquement due au fait qu'on aurait exporté nos émissions. Et donc il faut imaginer une forme de taxe carbone aux frontières ou quelque chose qui en tout cas permette de garantir qu'on n'a pas cet effet de fuite et qu'on a bien un progrès pour l'ensemble, un progrès à l'échelle globale en termes de réduction d'émissions.
Fanny Henriet.
Oui, il y a deux problèmes qui se posent avec la compensation. Le premier, c'est est-ce qu'on compense effectivement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de projets pour lesquels on se rend compte qu'en fait, on ne compense pas vraiment, c'est-à-dire c'est soit des projets qui de toute façon auraient été faits, ou bien c'est des projets qui ne permettent pas de réduire les émissions de CO2, donc ça c'est le premier problème. Et puis ensuite, il faut que, pour que ce soit efficace, que ces mécanismes de compensation, ces projets de compensation coûtent suffisamment cher pour que vous n'ayez pas envie de compenser en fait, et que vous préfériez réduire les émissions chez vous plutôt que de compenser. S'ils sont pas très chers, ça a un effet incitatif réduit.
Mais ça a été en tout cas un sujet de débat, de discussion au moment de la COP25. On a parlé du marché international du carbone, du marché de la compensation pendant cette COP25. Et il y a notamment des avancées, des discussions qui ont eu lieu sur les échanges de quotas carbone entre pays. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Étienne Espagne ?
Oui, alors ça, je pense que ce sont des évolutions qui sont liées à l'article 6 de l'accord de Paris, qui a toujours, qui est une sorte de vestige de cet objectif, qui était déjà présent dans le protocole de Kyoto, d'un grand marché mondial du carbone. Je pense que grosso modo, la stratégie dans les négociations climatiques aujourd'hui est quand même assez différente. Elle porte plutôt sur quels efforts les pays peuvent faire dans leur trajectoire de développement pour réduire leurs émissions. Et évidemment ensuite des efforts de coordination de ces efforts pour pour augmenter l'ambition. Et ça, ça a été l'approche de la COP 21, ça a été l'approche de l'accord de Paris. Et donc, on se heurte assez rapidement, dès lors qu'on internationalise un peu ces marchés, sur des problèmes de crédibilité, de confiance dans l'impact réel en termes de réduction d'émissions.
Il faut rappeler que les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto. Par ailleurs, mais alors, par contre, on arrive quand même à mesurer un certain impact de cette hausse du prix du carbone. On a des émissions qui ont diminué entre 2017 et 2018 quand le prix du carbone a augmenté, Fanny Henry.
Oui, ça c'est quelque chose qui marche assez bien. Quand on augmente les prix, la demande pour le bien dont le prix augmente diminue. Donc on l'a observé pour le carbone au même titre que pour beaucoup d'autres biens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des travaux qui montrent que ça a aussi stimulé la recherche et développement vers des technologies plus vertes. Donc ça a à la fois un impact sur la demande et puis sur la stimulation de l'innovation.
Et alors, est-ce qu'il faudrait faire comme au Royaume-Uni, je crois, instaurer un prix plancher du CO2 et relever ce plancher année après année?
Oui, pourquoi pas. En fait, ça revient plus ou moins à transformer un marché de quotas de CO2 en une taxe carbone.
Et on sait la difficulté qu'il y a à instaurer une taxe carbone. Alors, on arrive au terme de cette émission. Un dernier mot peut-être sur le rôle des marchés, à la fois marché du carbone, marché des obligations vertes dans le financement de la transition énergétique. Sébastien Soleil.
Oui, plus généralement, je suis convaincu. Enfin, la transition énergétique, les objectifs de l'accord de Paris nécessitent vraiment l'action conjointe de tous les acteurs. Donc, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, les entreprises et les citoyens ont leur rôle à jouer, les marchés financiers aussi. Et donc, c'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment on doit tous s'aligner dans la même direction pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et à ce titre, les marchés financiers ont un rôle à leur place, mais un rôle capital à jouer pour orienter les flux de capitaux dans la bonne direction, en discussion, en accord, en collaboration avec les pouvoirs publics, leurs clients, les gens qui financent, etc.
S'aligner, mais en allant peut-être plus vite, Étienne Espagne, face à l'urgence climatique.
Oui, je voudrais peut-être souligner que cette année 2020 est vraiment cruciale. On a une COP très importante à la fin de l'année. Les États-Unis sont plus ou moins hors du jeu pour l'instant, et au moins tant qu'il n'y a pas un nouveau président des États-Unis. Et donc, on a l'Europe et la Chine, grosso modo, qui doivent trouver des moyens d'accord et pour rehausser les ambitions et sauver, et, parce qu'il s'agit de sauver, préserver l'ambition de l'accord de Paris. Et ça doit se faire en 2020. Et il y a une rencontre, je crois, Europe-Chine à Leipzig en septembre 2020, qui doit être l'occasion de préparer cette COP pour qu'elle soit réellement utile.
Et c'est l'occasion de chercher des idées neuves. C'est le thème de notre journée spéciale aujourd'hui pour justement financer cette transition énergétique en vue de la COP de Glasgow l'année prochaine.
Oui, je pense que vu là où on en est, on va avoir besoin de tous les instruments disponibles, c'est-à-dire à la fois la finance verte, les régulations, mettre en place un prix du carbone, etc.
Et on va évidemment suivre tout cela de très près. Un grand merci à tous les trois. Il est temps pour nous de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Demain ce sera le Brexit, l'Union européenne sans le Royaume-Uni et le futur budget européen également privé des 12 milliards d'euros annuels de la contribution britannique. Pas sûr qu'il soit compensé.
En effet, les négociations doivent commencer assez rapidement le 20 février et il faudrait qu'elles soient bouclées idéalement avant juillet, mais l'accord sera difficile à atteindre puisque 12 milliards d'euros annuels avec un Royaume-Uni contributeur net, ce sont 84 milliards d'euros sur les prochaines 7 années à trouver si les 27 veulent simplement continuer leur programme. Alors une question se pose, faudra-t-il augmenter les contributions nationales au budget de l'Union européenne? Jusqu'ici, une coalition dite des 1%, principalement autour de l'Allemagne et de pays nordiques, refuse de dépasser ce seuil symbolique de leur richesse nationale. Sous sa pression, justement, la présidence du Conseil de l'UE actuelle, la finlandaise, a tenté de revoir à la baisse les propositions de l'ancienne commission Juncker qui prévoyait effectivement une hausse des contributions à 1,114%. Écoutez ce qu'en dit Eulalia Rubio, elle est spécialiste du budget l'Union à l'Institut Jacques Delors.
La Commission avait proposé 1,11%, mais en fait ça a été équivalent à maintenir le volume de dépenses à terme à prix constant. Mais ça, il y avait ces groupes d'États qui sont très favorables à baisser à 1% de PIB et donc la proposition finlandaise baissait à 1,07%, comme vous avez dit. Est-ce qu'il y aura un accord maintenant? Ça va être difficile, effectivement. Les positions sont assez polarisées encore. On a ces groupes de 1% qui sont assez fermes, quoique l'Allemagne, on avoue récemment qu'elle est moins inflexible sur ce sujet. Donc, elle a fait des gestes en laissant à comprendre qu'elle pourrait accepter une petite augmentation. Mais effectivement, il y a des pays qui ont une position encore très ferme, la Suède, l'Hollande. Et de l'autre côté, il y a les pays bénéficiaires nets qui reçoivent surtout de l'argent de la PAC et de la cohésion qui envoient déjà les volumes baissés parce que la proposition de la Commission, déjà, elle prévoyait une baisse de l'argent pour la cohésion et la PAC. Et donc, il essaie de maintenir, voire augmenter ses rubriques.
Mais une chose semble sûre, Xavier, avec ou sans accord budgétaire, il y aura de toute façon des coupes dans certains programmes européens.
Oui, vous avez entendu Lalia Rubio, il n'y aura pas de shutdown général comme aux États-Unis si aucun accord n'a lieu à la fin de l'année, mais il y a déjà une certaine désorganisation qui concerne le fonds de cohésion, préventivement diminué de 7%, mais le fonds de développement régional et le programme Erasmus, bien connu, ne sont prévus également pour fonctionner que jusqu'à 2021. Seule la PAC, finalement, a le droit à une mesure de maintien provisoire. Le Parlement européen voudrait l'étendre à l'ensemble des programmes, mais la Commission refuse, peut-être pour pousser les 27 à s'entendre rapidement.
On passe au bref. 12 milliards d'euros, c'est aussi la somme qu'il faut trouver pour renflouer le système de retraite d'ici à 2027. Début aujourd'hui de la conférence de financement et là aussi le consensus sera difficile à trouver.
Et oui, parce que si la conférence se conforme aux lignes rouges du gouvernement, c'est-à-dire pas d'augmentation des cotisations, donc le coût du travail, et pas de baisse des pensions, on pourrait voir se redessiner les clivages du premier épisode autour des mesures d'âge seules envisageables pour le gouvernement et le MEDEF, car pour l'instant, la CFDT qui veut faire examiner une quarantaine d'amendements refuse de discuter sans ce qu'elle appelle des mesures de justice préalables. La CGT, elle, veut toujours défendre l'actuel système et Force ouvrière, qui a une proposition chiffrée, propose justement une augmentation d'1% des cotisations pour un équilibre financier d'ici 2030. Donc on le voit, toutes les lignes rouges sont allègrement franchies. Restent les solutions exceptionnelles, notamment le fonds de réserve de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Et pour finir, une surprise du côté de la Banque d'Angleterre. Elle ne fera finalement pas baisser ses taux directeurs.
Et non, pour cette dernière décision de l'actuel gouverneur McCarney, eh bien il surprend, alors que la plupart des analystes prévoyaient une baisse de ses taux pour soutenir une croissance, disons, fléchissante, rien de cela, il reste positif à 0,75%. Dans son commentaire, Carney évoque une conjoncture mondiale plus favorable. Alors est-ce un moyen de soutenir les futures négociations des accords commerciaux britanniques avec l'Europe et les États-Unis ou de ne pas faire démentir peut-être son surnom de petit ami peu fléchissant? Unreliable boyfriend.
Bel accent, merci beaucoup Xavier. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal de l'écho.
Où es-tu en cet instant, moi en retard? J'arpente les couloirs en recherche de quoi je ne sais. Miss, je te kiffe et tu le sais. Laisse-moi t'enlever, on se trouvera une planque. À l'abri du monde, à l'abri du manque. Contre la rosée et les étoiles filantes. J'suis pas le genre de mec à m'asseoir à côté de toi. Tu me glaces et me brises, y'a quelque chose en toi qui m'empêche de quoi que ce soit. Je veux juste t'emmener au creux des vagues déferlantes qui se posent sur ton corps endormi dans la valse du vent et le bruit de la nuit. On déjouera les statistiques en ignorant les pourcentages de chance pour moi d'avoir pu dégrafer ton corsage en plein orage. J'suis pas le genre de mec à m'asseoir à côté.
On se quitte avec Team Dup, une autre histoire d'amour. Merci beaucoup Étienne Espagne, Fanny Henry et Sébastien Soleil de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Alain de Roucourt, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Adèle Caglar.
Qui m'empêche de quoi que ce soit, de quoi que ce soit.
Demain, nous reviendrons sur la baisse du chômage et sur ce qu'elle nous dit de l'état de santé de notre économie. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur le Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.